Chapitre 2. Deux jours plus tard, Isidore Beautrelet est à nouveau près du monastère du château d'Embrumésie. Il est entré dans le parc un peu avant minuit. Et pendant 3 heures, il s'est promené dans les ruines. Il est monté sur les vieilles colonnes. Il a réfléchi. L'inspecteur Ganimard est arrivé de Paris. Il est venu pour résoudre l'affaire. Il a arrêté Beautrelet sans violence. Le lendemain matin, à 9 heures, le juge Filleul arrive au château et découvre Isidore. Il s'exclame « Monsieur Isidore Beautrelet, quelle bonne surprise! C'est une chance de vous voir ici !» Puis il se tourne vers l'inspecteur Ganimard. « Monsieur l'inspecteur, je vous présente Monsieur Beautrelet, élève au lycée Janson de Sailly. » Monsieur Filleul annonce à Isidore qu'il est libre. Le juge a mené son enquête. Raymonde de Saint-Véran s'est trompée. Elle n'a pas pu voir Isidore dans le château. Il était à Veules-les-Roses au même moment. Monsieur Filleul demande à Isidore de le tenir informé du résultat de ses recherches. L'inspecteur Ganimard assiste à l'entretien entre le juge et le jeune homme. Le juge explique « Monsieur l'inspecteur, on peut faire confiance à Monsieur Beautrelet. Il a une très bonne réputation et on le compare même à Herlock Sholmès. » « Vraiment ?» répond Ganimard sur un ton moqueur. « Tout à fait, monsieur Beautrelet, voici le moment de confirmer votre réputation. » Isidore écoute et sourit. Il répond « Monsieur le juge, je ne sais rien. J'ai seulement découvert, comme vous, 2 ou 3 choses. Par exemple, eh bien, les objets volés. C'est la première chose qui m'a intéressé. Il y a eu vol, c'est certain. » Les 2 jeunes filles ont vu les 2 hommes partir avec des paquets.
Bien, il y a eu vol.
Mais rien n'a disparu. Monsieur de Gesvres en est sûr.
Donc, rien n'a disparu.
Il y a eu vol et rien n'a disparu. C'est donc qu'on a remplacé l'objet volé par un objet identique. Dans ce salon, il y a 2 choses de valeur. D'une part, la tapisserie, mais elle n'est pas facile à copier. D'autre part, il y a les 4 tableaux de Rubens.
Et donc,
les 4 Rubens sont faux.
Non, ce n'est pas possible. Ce sont des copies.
Monsieur Filleul et Ganimard se regardent avec surprise. Puis le juge dit
« Appelez Monsieur de Gesvres. »
On fait venir Monsieur de Gesvres dans le salon. Le juge prend la parole.
« Monsieur le comte, l'enquête avance. Nous pensons que les voleurs ont pris vos 4 Rubens. » Ils ont remplacé les tableaux par des copies.
Pouvez-vous regarder les tableaux et nous dire s'ils sont authentiques ? Le comte semble mal à l'aise. Il ne regarde pas les tableaux et il répond « Vous avez raison, monsieur le juge, ces 4 tableaux sont faux. »
« Vous étiez au courant ?»«
Oui. »
« Pourquoi vous n'avez rien dit ?»
« Je ne voulais pas faire peur aux voleurs. Je souhaitais leur proposer de racheter les tableaux. » Le raisonnement d'Isidore Beautrelet impressionne le juge. Le juge veut maintenant plus d'informations. Il veut connaître l'identité du meurtrier et l'endroit où il se trouve. Isidore répond que le meurtrier de Jean Daval et l'homme blessé sont 2 personnes différentes. Jean Daval est un complice de l'homme blessé, explique Isidore. Daval a fait entrer les voleurs dans le château. Mais lorsqu'il voit Monsieur de Gesvres, Daval a peur. Il se jette sur lui avec un couteau. Monsieur de Gesvres réussit à attraper le couteau. Il frappe Daval avec l'arme. Quelqu'un donne alors un coup de poing à Monsieur de Gesvres qui tombe. Il s'agit certainement de l'homme que les 2 filles ont vu dans le couloir. De nouveau, Monsieur Filleul et l'inspecteur se regardent étonnés. Le juge demande au comte si ce récit est exact. D'abord, Monsieur de Gesvres reste silencieux, puis il dit
« C'est exact. Daval travaille avec moi depuis 20 ans. Il m'a beaucoup aidé. C'est pour cela que je n'ai rien dit. C'est par amour que Daval a volé. Maintenant, il est mort et je pense que cela est suffisant. »
Le comte quitte la pièce et les 3 hommes se retrouvent seuls. Isidore Beautrelet continue son exposé. Selon lui, l'homme blessé est Arsène Lupin. Le roi des cambrioleurs. Arsène Lupin est ici, dans le château. ce sont les dernières conclusions de Beautrelet avant son départ. Les vacances sont finies. Il doit retourner au lycée. L'inspecteur Ganimard rentre lui aussi à Paris. Arrivé chez lui, il trouve une note écrite par Isidore Beautrelet. Beautrelet lui donne des informations importantes. Ganimard suit les conseils d'Isidore et le lendemain matin, il va chez Étienne de Vaudrex. Selon Beautrelet, c'est l'identité utilisée par Arsène Lupin depuis un an. Il n'y a personne chez Vaudrex, mais l'inspecteur Ganimard croise le facteur. Le facteur a une lettre pour Vaudrex. Elle vient des États-Unis, d'un Américain, Arlington. Arlington écrit à M. de Vaudrex pour confirmer l'achat des 4 tableaux de M. de Gesvres, ainsi que d'autres objets. Le jour même, Ganimard arrête Arlington au Grand Hôtel où il est installé. En 24 heures, un garçon de 17 ans a trouvé la réponse à plusieurs problèmes. Mais bien des questions demeurent. Plusieurs semaines plus tard, le 6 juin, Isidore prend le premier train en direction d'Embrumésie. C'est là, dans le train, qu'il reçoit un avertissement écrit. Chacun ses affaires, occupez-vous des vôtres. Sinon, tant pis pour vous. Cette menace ne semble pas inquiéter Isidore. À la gare, Isidore lit les titres des journaux. On annonce l'enlèvement de Mademoiselle de Saint-Véran. On a trouvé une écharpe avec du sang. Les journalistes pensent à un assassinat. À Embrumésie, Isidore retrouve l'inspecteur Ganimard et le juge Filleul qui lui confirme l'information. Puis le juge Filleul lui montre un vieux morceau de papier retrouvé près de l'écharpe de Mademoiselle de Saint-Véran. Sur le papier, il y a des chiffres, des points et des signes. En fin de journée, M. Filleul retrouve le jeune Beautrelet dans les ruines du monastère d'Embrumésie, là où on pense qu'Arsène Lupin se cache.
« Que faites-vous ? » demande le juge.
« Je réfléchis. »
« Cherchez plutôt des indices. Vous réfléchirez ensuite.
Oh, moi, je procède différemment, et surtout avec un homme comme Lupin. Je pense qu'il a fait exprès de laisser des indices. Il faut être méfiant. Nous ne devons pas construire des hypothèses sur des erreurs. Lupin a réussi à tromper Sholmès. »
Le juge veut résoudre l'enquête avant Ganimard, qui est toujours à Paris, et avant Herlock Sholmès, que le comte de Gesvres a contacté. Il résume à Isidore les derniers événements.
« Hier soir, après 11 heures, deux hommes sont entrés dans la chambre de Mademoiselle de Saint-Véran et ils l'ont enlevée. Ils ont drogué les chiens. À 500 mètres du château, on a trouvé l'écharpe de Mademoiselle de Saint-Véran sous un arbre. On n'a pas trouvé le corps. Mon avis est que Lupin est mort. Ses amis ont voulu le venger. Ils ont tué Mademoiselle de Saint-Véran. » Je me demande où est le cadavre de Lupin.
Isidore écoute M. Filleul, puis il dit « Monsieur le juge, retrouvons-nous lundi matin, ici, à 10 heures. J'essaierai de vous donner la solution de l'énigme du papier. »
« Vous êtes sérieux, Monsieur Beautrelet ?»«
À lundi !» Et Beautrelet s'en va. M. Filleul repart vers Dieppe et Isidore prend la route de Hierville et de Caudebec-en-Caux. Il veut savoir comment les voleurs ont transporté des objets de la taille des 4 Rubens. Il pense que l'équipe d'Arsène Lupin a traversé la Seine avec les tableaux. Il lui faut des preuves. Après bien des recherches, il retrouve un Normand qui a transporté sur l'autre rive de la Seine 4 grands paquets, mais aussi des grosses pierres. Beautrelet est satisfait de sa découverte. Comme prévu, le lundi matin, Beautrelet retourne au château d'Embrumésie. Le comte de Gesvres lui donne une lettre à son nom. Il y a seulement quelques mots. Deuxième avertissement. Ne dis rien, sinon... Beautrelet retrouve M. Filleul dans les ruines. Il lui rappelle que, dans sa lettre, Arlington parle des 4 Rubens et d'autres objets. Ces autres objets sont les pierres et les statues de la chapelle. Arsène Lupin les a volés. Tout ce qui est autour d'eux est faux. Lupin a moulé les pièces avec du plâtre et, pendant son travail, il a découvert une crypte sous la chapelle.
Beautrelet et Filleul décident d'explorer la crypte.
« Beautrelet, il est là !»
s'exclame soudain Monsieur Filleul.
« Hein ?»
répond Isidore.
« Voyez la grosse pierre qui est tombée de l'autel. J'ai senti quelque chose dessous. Et vous sentez l'odeur !»
Beautrelet s'approche de l'endroit que lui montre le juge. Il pousse un cri d'horreur. Il y a, par terre, un corps en décomposition. Ses vêtements sont déchirés. Une grosse pierre a écrasé sa tête. Le visage n'est pas identifiable. Beautrelet et Filleul sortent de la crypte. Le juge félicite Beautrelet et dit
« Mademoiselle de Saint-Véran a bien tiré un coup de fusil sur Arsène Lupin. Arsène Lupin et Étienne de Vaudrex sont bien la même personne. Regardez sur les vêtements du cadavre. Il y a les lettres EV. Pour moi, c'est très clair. Et je viens de recevoir une lettre de Dieppe. Des pêcheurs ont trouvé ce matin le corps d'une jeune femme. Ils ont pu l'identifier grâce à un bracelet en or. C'est celui de Mademoiselle de Saint-Véran. Qu'en pensez-vous, Beautrelet ?
Rien. Mais tous les faits correspondent à mon hypothèse de départ. Je dois encore vérifier quelque chose. Je pars à Dieppe et je serai de retour vers 4 ou 5 heures. Je vous dirai toute la vérité. Pendant son voyage, Beautrelet reçoit un troisième avertissement écrit. C'est notre troisième et dernier message. Il comprend que quelqu'un le surveille dans le château. À son retour au château, Beautrelet explique à M. Filleul la signification des points et des chiffres du papier retrouvé à côté de l'écharpe de Mademoiselle de Saint-Véran. Les chiffres représentent les voyelles. Beautrelet a facilement trouvé 3 mots, « demoiselle » et « aiguille creuse ». Il ne comprend pas encore la signification du message. Maintenant, il s'intéresse surtout à la matière du papier, sa couleur et aux marques de cire rouge. Le greffier, Brédoux, frappe à la porte et interrompt la conversation. Il prévient le juge que le procureur l'attend à l'entrée du château. Monsieur Filleul est surpris, mais il sort. Le greffier ferme la porte à clé derrière le juge. Il demande à Beautrelet de lui donner le papier. Il sort un revolver et le dirige vers Isidore. Pour la première fois, Isidore a très peur. Il se sent en danger.
« Le papier !» répète Brédoux.
« Le voici, » dit Beautrelet. Et il donne son portefeuille à Brédoux.
« Parfait, c'est bien, tu es sage. Je le dirai aux autres. Adieu !»
Brédoux va sauter par la fenêtre, mais il vérifie d'abord le contenu du portefeuille. Il est vide. Le papier n'y est pas. Brédoux est furieux. Il se jette sur Beautrelet et sort un couteau.
Beautrelet voit l'arme et il sent une douleur dans son épaule.
Brédoux prend le document dans la poche intérieure de la veste de Beautrelet et il s'enfuit par la fenêtre. Le lendemain matin, les journaux racontent les derniers événements de l'affaire. Le vol de la chapelle, le cadavre d'Arsène Lupin et celui de Raymonde, le meurtre de Beautrelet par Brédoux. Ils annoncent aussi la disparition de Ganimard à Paris et d'Herlock Sholmès à Londres. La bande de Lupin reprend le pouvoir. Sholmès et Ganimard ont disparu. Beautrelet n'est plus un danger. Il n'y a plus personne pour lutter.